94 FM.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour ce présent ce midi, c'est un grand plaisir de vous retrouver au sommaire de ce magazine. Vous savez, l'été, mais c'est aussi la période des vacances et des congés, des journalistes, des animateurs, donc on fait écouter le meilleur de l'année, et cette fois-ci Anne-Rose Jankovic nous entraîne du côté de la vallée de Barousse, une très belle vallée où on parlera du catéchisme, et on parlera aussi avec le maire de la commune un peu de tout ce qu'il y a à voir et à visiter dans cette belle région qui est une enclave des Hautes-Pyrénées, la vallée de Barousse du côté de la Haute-Garonne. Voilà, un beau lieu à visiter, et on le sera donc avec Anne-Rose Jankovic. C'est une interview qu'on avait fait en début d'année 2025. Et puis on ira faire aussi une balade du côté de Lourdes, aussi d'autres lieux à visiter. Puis on parlera avec l'Office du tourisme de Lourdes. Gilles Galbardi nous entraîne visiter les Halles de Lourdes à l'approche de 13h. Ce sera toujours intéressant d'aller visiter les Halles de Lourdes. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Et comme d'habitude, si vous êtes en voiture, la plus grande prudence. On démarre cette émission en musique.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Entendre ou réentendre, le meilleur de présence cet été.
Bonjour Jean-Michel Palao.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Lourdes-Barousse. Alors, à l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Mika en Barousse, nous allons profiter de cette occasion pour découvrir la Barousse et notamment ce village de Lourdes-Barousse. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, peut-être nous dire le nombre d'habitants et puis mentionner évidemment la particularité d'être vraiment aux portes du Comminges.
Voilà. Donc, le Lourdes-Barousse se situe en limite des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Et donc c'est une commune de 758 habitants au dernier recensement. Et là, le nouveau recensement de début 2024, début 2024 fait ressortir donc une augmentation assez sensible du nombre d'habitants, puisqu'on est pas, on passerait à 713 habitants. Donc de 658 à 713, donc ça fait un gain de 60 habitants. Et donc nous, on est très heureux d'avoir ces résultats.
Qui sont les habitants? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont toujours été là, de nouveaux arrivants, des jeunes?
Alors,
J'ai vu qu'il y avait une école maternelle, primaire, même un collège, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a des familles.
Oui. Donc, Lourdes-Barousse se situe à l'entrée du canton de Barousse. Hein. Et donc c'est un centre-bourg. D'ailleurs, on est inscrit dans les dispositifs centre-bourg de la région et également dans le dispositif petite ville de demain.
Donc, c'est quoi, pardon, ce dispositif?
Ce sont des dispositifs qui permettent donc. C'est l'État et les collectivités. Des grosses collectivités qui misent sur certaines communes quant à leur devenir, c'est-à-dire que ils ont ressenti qu'à Lourdes-Barousse il y avait peut-être un potentiel de développement, et puisque Lourdes-Barousse 758 habitants, donc maintenant 713 habitants, on a donc un supermarché, on a des écoles, on a le collège, on a un centre de santé, donc on est bien doté en matière de services et en matière de commerce, quoi. Dans les commerces, évidemment, auparavant, il y en avait davantage, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a maintenu quand même certains commerces de proximité et indispensables donc, à la vie locale.
Pardon, mais je vous coupe sur ce point-là. Mais comment vous avez fait justement pour maintenir ce niveau de service de proximité? Parce qu'on entend tellement de communes qui galèrent, hein, pour dire les choses clairement là-dessus. C'est quoi le secret de la réussite? C'est dû à quoi?
Eh bien, on a fait un constat il y a quelques temps de ça. Enfin, lors du premier mandat, on voyait que notre population petit à petit s'amenuisait, donc on a réfléchi et on a mis en place donc un lotissement communal de 27 lots déjà, donc pour essayer d'inverser la pente un peu au niveau de la population. Et donc effectivement, donc on en a les résultats. Et puis également, on a investi On a investi dans la commune. On a quand même autour, j'ai autour de moi une équipe qui va de l'avant et avec des projets que donc qu'on a réalisés. Donc en 2020-2021, on a restructuré l'école communale et le primaire. Cette école, donc, auparavant, prenait l'eau. Quand il y avait du vent, le toit avait tendance un petit peu à se lever. Donc, il y avait quelques petits soucis. Donc, on est reparti avec à l'époque, le préfet Rodrigue Fursy. On est parti sur un projet de 2 millions d'euros et on a refait l'école. Donc, par rapport à ça, également, on a engagé également des projets. On a racheté, mettons, un terrain, la maison Cachia, sur lequel donc on a des projets d'avenir. Également, on a mené pas mal d'actions et d'opérations qui ont permis donc de raccrocher, de faire revenir un petit peu la population à Lourbarousse.
Ça veut dire qu'avec tous ces services-là, à la fois les personnes vieillissantes peuvent rester plus longtemps chez elles et puis les familles sont plus encouragées à s'installer ou à rester.
Oui, donc alors en fait, au niveau des services, on a à disposition donc un centre de santé avec des médecins, avec toute une série de, avec des paramédicaux, des infirmiers. On a également une maison de retraite, un EHPAD. Voilà, donc on a tous, voilà. Et dernièrement, donc on s'est recentré quand même un petit peu. On s'est dit donc il faut revenir vers les jeunes un petit peu. Donc on va bientôt inaugurer le City Stade à Lourbarousse. Donc pas mal d'actions quoi, en direction un petit peu de toutes les générations et pour essayer d'amener Lourbarousse à, disons, de retrouver Lourbarousse avec son niveau de population qui était dans le passé aux environs de 800 habitants, quoi. Donc voilà.
Alors, qui dit service dit aussi du coup du travail, de l'emploi. Mais est-ce qu'on peut un petit peu évoquer ce point-là, le secteur économique, il s'appuie sur quoi? Quand je me suis un petit peu promenée là avant d'arriver à la mairie de Lourbarousse, les gens m'ont dit, plusieurs personnes m'ont dit, mais il y a deux choses importantes ici en Barousse, c'est le fromage et l'eau.
Alors là, c'est deux symboliques importantes de la Barousse, mais
deux symboliques, donc c'est pas forcément les piliers de la vie économique.
Non, je pense pas. Mais enfin bon, c'est vrai que ça y contribue. Non, par contre, l'avantage de l'Eurobarousse, c'est qu'on est situé pas loin de l'autoroute. On n'est pas loin de gros centres comme donc Saint-Gaudens, un peu plus loin donc Toulouse. Donc on a une population qui va travailler dans ces centres-là, Morégeau, Saint-Gaudens, Toulouse, voilà. Donc on a une population à ce niveau-là. Bon, après, il faut pas se le cacher. Ici, on a pas mal aussi de retraités. On a donc le troisième âge, comme on dit. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme industrie? Ben, on a pas mal des petits commerces aussi, effectivement, comme le Carrefour Contact, ou derrière, donc il y a à peu près une quinzaine d'employés. On a aussi la maison de retraite avec pas mal d'employés aussi. On a tout ce secteur-là qui a mis en place donc des emplois.
Vous évoquez Toulouse, c'est vrai, on est là à une heure de Toulouse et un peu moins d'une heure de Tarbes. Hein. Donc ça, c'est quand même, ça doit jouer aussi. Ça.
Alors, on a ce phénomène-là. Donc, on a toutes les commodités pour aller sur Toulouse, Tarbes, donc avec l'autoroute. Et là, dès juin, on a le train qui revient.
Ah, alors, racontez-nous ça, le train revient.
Oui, voilà, donc c'était en 2004. On a vu la fermeture de la ligne SNCF Montrégeau-Luchon. Et grâce à la volonté de notre présidente de région, Carole Delga, en 2016, ben le projet est reparti sur la réactivation de cette ligne-là. Donc les travaux sont en cours, ils sont bien avancés, et je pense que les premières liaisons vont se faire dès le mois de mai ou juin 2025.
Qu'est-ce qu'elle va changer pour vous, cette ligne ?
La ligne par elle-même, faut pas croire, mais ça va pas amener un chamboulement terrible. C'est aux élus, c'est à la population à s'emparer de cet outil et d'en faire donc un élément essentiel au développement économique. À la pratique de tous les jours.
Oui, derrière, il y a aussi une question d'écologie.
Oui, tout à fait. Donc, puisque, en fait, cette ligne, pour l'instant, ça va démarrer sur des locomotives diesel. Mais ce qui est prévu, in fine, c'est que ça soit donc ce soit des tractions par le biais de l'hydrogène.
Ça sera donc une innovation aussi derrière. Vous allez être un centre un peu innovateur.
Ouais, ce seront donc des trains, des locomotives à hydrogène, oui, qui seront mis en place.
Voilà. Quel est l'enthousiasme des habitants là du coin vis-à-vis de cette ligne?
Alors au départ, c'était un petit peu le scepticisme parce qu'on disait le train, ouais, dans le passé, il n'y avait pas trop de monde, mais maintenant, donc avec ce qui est prévu, c'est-à-dire le nombre de trajet, il est prévu 6 à 7 navettes par jour, donc c'est intéressant. Et puis ils voient les travaux, on sent qu'il y a donc une dynamique qui se crée, et un certain optimiste.
Donc ça veut dire cette ligne, elle pourra être empruntée par les gens qui iront au travail, par les jeunes qui iront à l'école, enfin par toutes ces personnes-là, le matin, le soir.
Oui, voilà. Donc c'est le but, c'est ça, quoi. C'est de recréer du lien dans la vallée de faire revivre un petit peu cette ligne et de faire revivre les villes qui sont attachées, et notamment donc en bout de ligne, il y aura donc Luchon, Bagnères de Luchon.
Alors ça, on pourra en parler longtemps, mais du coup, c'est vraiment cette réflexion aussi sur le lien avec le Comminges et puis la Haute-Garonne. Enfin, la Barousse est vraiment un territoire finalement très authentique, mais à la fois tourné vers d'autres, alors que ce soit les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Comminges. Vous êtes un petit peu multi-identité tout en ayant un caractère bien, bien à vous.
Oui, donc effectivement, donc l'Ourbe-Barousse et la Barousse, on est situé donc dans le Comminges. Oui. Donc en limite de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, et pas loin de villes, pour nous qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire donc Saint-Martin-de-Comminges, avec son côté historique, avec tout son passé, et également donc Barbazan, qui à l'époque avait les termes. Donc l'Ourbe-Barousse, on a une vieille affiche là, où donc cette affiche représente Lourdes, Barbazan, Saint-Martin-de-Comminges. Donc les anciens avaient déjà donc ce lien, et nous on essaye de le faire perdurer.
Voilà. Et votre cœur à vous, il est vraiment du côté aussi de ce côté-là.
Mais c'est-à-dire que effectivement, dans le passé, lorsqu'on allait faire une carte grise à Tarbes et qu'on disait qu'on était de l'Ourbe-Barousse, les gens de la préfecture se demandaient mais où se trouve l'Ourbe-Barousse. Ils savaient pas que, c'était quand même assez loin de Tarbes. Et bon. Là, maintenant, ça a évolué quand même, hein. Notamment puisqu'on a eu un conseiller général qui s'appelait François Fortassin, qui était un Barousset convaincu et qui a été également président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Voilà, mais ça passe aussi ça passe par les élus aussi, cette connaissance du territoire. Merci beaucoup Jean-Michel Palao, merci pour cet accueil et cette découverte donc de l'Ourbe-Barousse. Vraiment, on invite les auditeurs de Radio Présence à venir se promener dans cette vallée.
On a donc un événement un petit peu qui revient chaque année, et c'est la fameuse foire au fromage. Donc,
le fromage c'est quand même important.
Le premier week-end d'août, où effectivement donc on se retrouve dans un marché artisanal et avec les fromages de Barousse et tous les produits locaux.
Voilà, donc Ça, c'est le premier week-end d'août et ça se passe ici à Lourbarousse, en centre du village, au bourg du ville, dans le bourg.
Non, ça se ça se situe du côté du stade, voilà.
Il faut venir à Lourbarousse et puis il y a aussi des randonnées, des promenades en vélo, enfin vraiment des forêts magnifiques.
Voilà, donc dans le cadre d'ailleurs du retour du train là, on va mettre en place au niveau de la gare, de l'ancienne gare, un PEM. Alors c'est un sacré mot, mais c'est un pôle d'échange multimodal où les gens pourront, à partir de la gare, récupérer des vélos électriques et aller se balader en Barousse ou à Saint-Martin-de-Comminges ou dans les Frontignes. Enfin, voilà. Donc, on se prépare un petit peu à ce développement économique et faire de l'arrivée du train un outil de développement. Voilà. Donc, beaucoup de projets en tête.
Beaucoup de projets au service à la fois des habitants pour leur confort au quotidien et puis aussi pour les personnes de passage et les touristes. Voilà. C'est un petit peu ça qui résume l'actualité de Lourbarousse. Merci beaucoup, Jean-Michel Palao. Et donc, à bientôt à Lourbarousse.
Présence. Entendre ou réentendre le meilleur de Présence cet été.
Radio Présence sur le COS. 106.5.
Voilà, vous avez entendu donc une émission qui avait été enregistrée par Anne Rose de Jankovic en janvier. Tout de suite, on continue avec un groupe qui est pas très loin des studios de Présence à Lourdes. C'est le groupe Boulevard Désert qui est né à Tarbes. On les salue tous.
Comment te dire ce que je ressens ? Comment faire pour faire autrement que ça ? Qu'importe le bruit et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, voilà, voilà. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, où j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, le ciel immense est sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense est sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, voilà.
Présence à Lannemezan 92.2.
Come on, baby, don't you wanna go? Chicago. Well, what I want is two. Six and two is eight. Come on, baby, don't you
présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Si à l'instant avec Imaginer l'amour était le titre de cette chanson. Tout de suite, il est tout juste 12h passé de 30 minutes. On fait un point sur l'actualité et on retrouve pour cela Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour ma petite Carla.
Bonjour à tous. Dans la vallée d'Orlu en Ariège, la vigilance est de mise au bord de l'Oriège. Chaque été, EDF déploie des hydroguides pour sensibiliser les promeneurs aux dangers de la rivière. Les débits peuvent en effet varier soudainement en raison des barrages, des panneaux jaunes et des vagues d'alerte rappellent les règles de sécurité. Les hydroguides distribuent aussi des supports pédagogiques aux visiteurs, un dispositif essentiel pour éviter les accidents dans ce décor de montagne. Sécheresse et chaleur extrême mettent le monde agricole du Gers à rude épreuve. La semaine dernière, le thermomètre a dépassé les 40 degrés, grillant cultures et prairies. Viticulteurs et céréaliers voient déjà le rendement fondre avec des vignes desséchées et des légumes perdus. Côté élevage, les fourrages manquent et les éleveurs doivent puiser dans leurs réserves ou acheter du foin. À cela s'ajoutent des restrictions d'eau qui compliquent encore l'irrigation des exploitations. Si une accalmie est observée, une nouvelle vague de chaleur reste redoutée dans le département. Le pèlerinage des gens du voyage a débuté à Lourdes avec l'installation de centaines de caravanes sur les terrains prévus à cet effet. Malgré la chaleur, les arrivées ont été fluides et bien coordonnées. Les parkings et les terrains ont été aménagés pour accueillir à la fois les voyageurs et les saisonniers. La fréquentation pourrait même dépasser celle de l'an dernier où plusieurs milliers de pèlerins étaient présents. L'installation s'est déroulée dans le calme et le respect mutuel. Le rassemblement peut désormais commencer tandis que le marché s'installe en centre-ville pour quelques jours. L'agglo du Grand Albigeois revoit ses navettes électriques gratuites avec la réouverture du pont vieux. Deux circuits remplacent les anciens trois pour simplifier les trajets et mieux desservir la ville. Les navettes, climatisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite, circulent toutes les 15 minutes. Ces ajustements devraient attirer davantage d'usagers et réduire le trafic automobile en centre-ville. L'Aveyron continue de séduire des pèlerins venus du monde entier pour découvrir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon l'Office de tourisme de Decazeville, 8 763 passagers ont été enregistrés à Firmy entre janvier et juillet, avec un pic de fréquentation en mai, le mois privilégié des marcheurs. Toutes les nationalités se croisent sur le GR65, avec en tête les Allemands, Suisses et les Belges. Les pèlerins viennent surtout chercher des informations pratiques et faire tamponner leurs crédentials. Au-delà du pèlerinage, le chemin reste avant tout un lieu de rencontre et de partage. Et enfin, à Figeac, une maison et son pigeonnier en zone inondable au bord du Célé sont menacés de démolition, suscitant l'inquiétude de deux associations de défense du patrimoine. La mairie justifie sa décision par la prévention des risques d'inondation et prévoit de réutiliser les pierres de la maison dans des travaux locaux, tandis que le pigeonnier pourrait être déplacé à l'identique.
Merci beaucoup Carla Ponce pour le journal de la mi-journée. Carla Ponce, élève journaliste à l'école de journalisme de Blagnac. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Mais pour l'heure, après avoir eu il y a quelques minutes le maire de Lourdes-Barousse, eh bien on repart en vallée de Barousse. Cette fois-ci, on va parler de catéchisme, émission qui avait été enregistrée par Anne-Rose Jankovic au début de cette année. Mais bien sûr, vous l'avez compris, pendant l'été, on reprend avec grand plaisir les interviews que nous avons réalisées pendant la saison radiophonique 2024-2025 avant de vous retrouver bien sûr pour la rentrée sur présence dès septembre, d'ici donc maintenant quelques jours.
Présence. Entendre ou réentendre le meilleur de présence cet été.
Bonjour Colette Gestas.
Bonjour.
Nous venons à votre rencontre à Lourdes-Barousse à l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Mika dans la Barousse ce 18 janvier. Vous habitez un de ces villages de la Barousse, Isaourt, et vous avez parmi les services que vous rendez à la paroisse, vous avez une casquette un peu particulière puisque vous accompagnez une catéchumène. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours, parce que c'est un parcours pour la personne catéchumène, mais c'est aussi, je crois, un parcours de foi pour vous. Est-ce que vous pouvez témoigner de cet accompagnement ?
Alors le début, tout d'abord, quand le prêtre m'a demandé de participer, je me suis sentie un petit peu démunie, parce que je suis quelqu'un pas timide, mais qui ne pensait pas pouvoir apporter grand-chose. Et le prêtre m'a dit, mais si, tu peux venir. Donc, et Coralie nous a quand même impressionnés par le fait, son cheminement pour faire son baptême. Et ça a été déjà un grand éclairage. Et puis ensuite, nous avons travaillé pour arriver. Et puis les étapes, l'appel décisif, toutes les préparations. Et là, de texte en texte, de réflexion en réflexion, on s'est rendu compte que Coralie apprenait des choses, mais que nous, enfin moi personnellement, qui avais toujours été à l'église, qui était baptisée, mariée, j'avais quand même 62 ans à l'époque, et j'ai beaucoup grandi avec cette expérience, et encore aujourd'hui, comme l'évêque nous l'avait proposé pour la confirmation, nous continuons à nous rencontrer tous les 15 jours. Nous faisons des partages d'évangiles que nous préparons chez nous, et puis nous on recoupe chacun nos différents avis, ce que l'on en a retiré. Et des fois, c'est vrai, on s'éclaire beaucoup les uns les autres et il en reste quand même quelque chose à la sortie, ce qui est très, très intéressant et surtout très enrichissant.
Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous avez dit là. Parlez-nous un petit peu de Coralie. Donc, Coralie, c'est cette jeune femme catéchumène qui est arrivée, qui a frappé à la porte de la paroisse de la Barousse sans connaître ni la communauté, ni vraiment l'Église. Racontez-nous un petit peu, parlez-nous de Coralie.
Alors, Eugène m'a dit, c'est une jeune personne qui arrive de région parisienne, qui voudrait être, alors qui est disponible le soir, est-ce que toi, le mercredi, tu ne travailles pas, c'est pratique? Alors oui, pas de souci. Mais je ne savais même pas à quoi ressemblait Coralie, je ne la connaissais pas, et donc j'ai d'abord fait la connaissance de Coralie, une personne très timide, très réservée, mais qui avait soif d'apprendre, soif de savoir, soif de comprendre surtout.
Et qui avait vraiment le désir de recevoir le baptême.
Tout à fait. Donc elle nous a rencontré son cheminement, qui lui est personnel, mais qui, ça éclaire sur toute la suite, quoi. Et c'est justement, comme disait Jeanne-Marie tout à l'heure, ce côté qui est rassurant, de fait qu'il y ait des gens qui viennent de nulle part au niveau de la foi, et qui tout à coup, là, claque, il y a le petit truc qui fait que. Et c'est ça qui est riche.
Et ça, c'est surprenant quand même, parce que dans nos vallées, dans nos contrées, dans nos petits villages, parfois, eh bien, on peut se dire que effectivement, nos assemblées dominicales vieillissent, se diminuent, et puis tout d'un coup, quelqu'un qu'on ne connaît pas vient frapper à la porte, vient demander le baptême et vient demander de l'aide pour être accompagné. Ça, c'est vraiment un signe du Seigneur.
C'est ça, c'est l'Esprit Saint, comme nous dit Eugène souvent quand on se retrouve, qui est là, qui nous aide et qui cherche des questions auxquelles on n'avait pas pensé, puisque, comme je disais tout à l'heure, comme on est quand même chrétien aussi, peut-être par tradition, parce qu'on nous a baptisés, parce qu'à l'époque, on baptisait les petits parce que c'était comme ça, parce qu'il y avait les grands-parents, parce que voilà. Et que maintenant, justement, il y a cette forme de vérité dans la mesure où on y va, on n'y croit pas, on n'y va pas. Et bien que quelqu'un arrive, justement, sans avoir toutes ses bases, et puis dans l'adversité, quelque part, parce que dans sa famille, tout le monde... Ne riez pas, mais était un petit peu bof, qu'est-ce que tu vas faire là, quoi. Donc, en plus, il y avait ça. C'était une richesse extrême, parce qu'elle assumait ce qu'elle était, quoi, et ce qu'elle voulait devenir, surtout.
Pour vous, être engagée comme ça, dans une équipe, pour accompagner une personne catéchumène, il y a aussi un travail de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, c'est ça, le catéchuménat, c'est faire du sur-mesure pour vraiment adapter un parcours à une personne. L'évêque dit ça parfois dans Monseigneur Mika. Eh bien, maintenant, on évangélise un par un. C'est un par un qu'on doit évangéliser. Vous vous y retrouvez, vous, dans cette...
Voilà. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, parce que la demande de l'homme peut être différente de l'autre. On peut, les questions sont différentes et les attentes aussi sont différentes. Et notre vécu à nous aussi est peut-être différent, notre façon de vivre, notre éducation. Oui. Donc, de part et d'autre, il y a des petites choses qui peuvent ressortir et se dire, ah ben tiens, finalement, voilà. Mais je pense que, effectivement, c'est du cas par cas. Et comme je dis bien souvent, avoir accompagné et accompagner encore Coralie, c'est un grand bonheur, mais, peut-être qu'on accompagnerait 10 personnes, ce qui n'est pas pensable, mais même 3 personnes de plus, et on ne vivrait pas du tout les mêmes choses.
Alors, il y a autre chose qui est très important dans votre témoignage, Colette. Donc, vous avez accompagné Coralie jusqu'à ce qu'elle reçoive le baptême, et puis vous avez continué. Mmh. Ça aussi, c'est très important, puisque là encore, c'est un peu un appel de notre évêque qui l'a dit à plusieurs occasions, ne laissez pas tomber les catéchumènes une fois qu'ils sont baptisés. Vous avez vraiment entendu ça, et puis vous avez obéi, quoi. Comment ça se passe, du coup? Parce qu'il faut pas que le soufflet retombe. Effectivement, une fois que le baptême est passé, il faut garder, maintenir la relation, puis avoir toujours des choses à apprendre, un chemin à parcourir. Comment vous faites?
Disons que cet appel, quand il nous a dit maintenant ne les laissez pas tomber, eh bien oui, bien sûr, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi? Ça veut dire on a élevé un enfant, et puis un temps t'as 10 ans, tu sais marcher, tu sais courir, tu sais faire, allez pof, débrouille-toi. Mais quand on est parent, on est parent le jour où ils naissent, tant qu'on est nous en vie, ou on espère être en vie plus longtemps qu'eux. Et pour un baptisé, c'est pareil. Parce que à tout moment, on peut avoir des questions, elles comme nous, et puis se dire que on est l'épaule, quoi.
Vous dites, elle peut avoir des questions, elle comme nous. Vous, ça veut dire que dans cet accompagnement-là, il y a des moments où vous vous êtes posé des questions, ou il y a des moments où ça a un petit peu bouleversé, chamboulé, boosté peut-être votre foi?
Boosté, pas chamboulé, pas forcément. Ça m'a enrichi, beaucoup enrichi. mais surtout booster. Ça m'a, voilà, c'est que je suis quelqu'un qui va à la messe. Enfin, avant je travaillais, maintenant je suis à la retraite, mais avant je n'y allais pas forcément tous les dimanches à la messe, j'y allais régulièrement comme maintenant, mais pas du tout dans la même ambiance.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ?
Ben, je ne sais pas. Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qui se passe, il y a une recherche différente. Il y a, quand on écoute, quand on lit l'évangile, eh ben, voilà, d'abord, j'ai le livre, mais quand on le lit, je me dis, tiens, ça, je demanderai à Eugène qu'est-ce qu'il en pense, ou on verra avec Aurélie si on est à côté. À la messe, on se voit, on se met à côté, voilà. C'est plein de petites choses, c'est la petite sœur, quoi.
Donc, il y a à la fois la fraternité que vous avez découvert et que vous entretenez, puis aussi une profondeur dans votre foi et peut-être j'ai envie de dire en vous écoutant que l'évangile a pris une autre place dans votre vie, une autre dimension.
Tout à fait, ouais, tout à fait différente, quelque chose qui se vit. Enfin voilà, pas être chrétien pour aller à la messe pour chanter et voilà. Et voilà, oui, quelque chose de différent, de quelque chose de une lecture qui se met en application, des choses simples, des textes qui veulent dire que finalement ça peut rapporter à ça, ce que l'on fait quand on fait les études de d'évangile. Et donc tout est lié et tout se lie, le dehors et le dedans, l'église et la maison, enfin l'église et les amis, l'église et la vie associative, enfin partout. Et donc on se rend compte qu'on est plus riche et qu'on peut être riche facilement de choses simples. Et pour moi la foi c'était déjà quelque chose de simple, mais là c'est quelque chose de plus généreux dans le sens on peut aller vers les gens et juste un sourire, toucher l'épaule, dire mais ça va aller, enfin des petites choses qui peuvent être très riches et qui coûtent rien quelque part, mais qui sont d'une grande richesse.
Le catéchuménat finalement mène loin.
Ah oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le feu d'artifice d'une vie quoi. C'est franchement au niveau religieux, mais c'est pas le religieux pétri de voilà, c'est pas le religieux tout.
C'est le spirituel, c'est un vrai.
Le spirituel, mais voilà, dans l'explosion, dans la joie, dans le partage, on se retrouve, on est content. Mercredi dernier, on a partagé la galette, donc l'une a porté ci, l'autre. Là, c'est ce côté, c'est la vie, c'est l'Église dans la vie et la vie dans l'Église. Enfin, c'est un mélange des deux qui fait que tout est un et que tout est facile et que tout est riche.
Alors ma dernière question, elle rejoint votre première réponse au début de cet entretien, puisqu'au tout début vous avez dit, mais quand le père Eugène Rufflet m'a appelé pour que j'intègre cette équipe du catéchuménat, je ne m'en sentais pas capable, je me disais que c'était pas du tout pour moi. Et puis maintenant vous nous dites finalement c'est un feu d'artifice dans ma vie de foi. Pourquoi vous ne vous en sentiez pas capable et vous ne soupçonniez pas que ça pouvait vous apporter autant, que ça vous apporterait quelque chose?
Parce que c'était peut-être plus abstrait, les lectures. J'avais peut-être moins une écoute. L'écoute n'était pas pareille. J'allais à la messe, j'écoutais l'évangile. Bon, ben voilà, on écoutait le prêche, voilà. Mais là, il y a plus une réflexion qui revient. Maintenant, quand je vais à la messe, dans la semaine, je me dis, tiens, on a dit ça. Il y a des choses qui refont écho, qui ne faisaient pas écho avant. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime partager, mais je me disais bon moi je suis voilà je vais à la messe je voilà je voilà bonne petite élève mais point quoi pour moi je serai comme je disais à Eugène je ne vais pas aller évangéliser, je sais pas faire.
Et finalement le Seigneur s'est servi de vous pour accompagner Coralie.
Il a fait un grand travail sur moi et beaucoup comme je dis depuis le début beaucoup de richesse beaucoup de enfin quelque chose de d'incroyable.
Eh bien, merci beaucoup, Colette. Allez, peut-être un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent que, comme vous, peut-être il y a quelques années, ils ne se sentent pas capables d'accompagner quelqu'un qui a besoin d'aide et de fraternité et de compagnons de prière pour aller vers le baptême. Quelqu'un qui n'ose pas intégrer une équipe de catéchuménat, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui s'en sentent pas capables ou qui hésitent ou qui en voient pas l'intérêt peut-être?
Ben, je leur dirais, lancez-vous, essayez au moins, allez voir ce qui s'y passe, allez essayer de comprendre comment ça va se passer, de voir que finalement... On n'engage rien, on est là juste pour poser chacun nos bases qui sont très différentes. Et c'est là la richesse justement. C'est donc forcément par rapport à d'autres, quand je vais à l'EAP et qu'on parle d'évangile, tout le monde, j'ai l'impression d'être waouh. Mais par contre là, eh bien on est tous à la même base. Donc on est tous en train de monter, on est tous en train de prendre de la force. Et donc si on se sent pas sûr, je pense que c'est encore mieux. Parce que je pense que si on est trop fort, eh ben, on doit peut-être faire peur à celui qui démarre aussi. Et donc, je me dis que comme je suis partie d'en bas, enfin, d'en bas, d'un peu comme tout le monde, finalement, de la moyenne des gens, je me dis que comme je suis partie de bas et que j'avais pas envie de partir de plus haut non plus, eh bien, j'ai grandi avec, j'ai appris avec, et j'ai peut-être pas fait peur à Coralie quelque part. On est là pour apprendre tous, mais on est surtout là pour accompagner quelqu'un qui part de loin. Parce que Coralie, elle partait de loin, donc, voilà.
Et toute seule.
Et toute seule. Et toute seule dans une famille où, voilà. Donc, je me dis, il faut partir. On est tous posés pas à côté, là, et il faut qu'on construise. Donc, construire, s'il faut pas que l'un, il parte du premier étage, et nous, on part d'en bas, quoi. Donc, je trouve que c'est important aussi, finalement. C'est une chance. Enfin, pour moi, c'était une chance de partir d'en bas aussi, parce que finalement, eh ben, on était à l'aise, quoi.
Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage, Colette Gestas, et puis bonne continuation ici, en Barousse.
Merci beaucoup, merci de ce bon moment passé, de bons moments de partage. Merci bien.
Présence, durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence, durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence.
Radio Présence, dans la Haute-Ariège, 92.7.
C'est pas humain, ça nous dépasse. On lit souvent à notre glace. Que veux-tu que j'y fasse? On comprend bien que juste en face, des millions de pas nous s'entassent. Et puis entre deux guerres lasses, on finit et on débarrasse. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi. Ça brille à la surface de nos inutiles carapaces. Dans l'obscurité de l'impasse, si tu savais ce qu'on ressasse. Dans le silence, un ange passe. Peut-être faire le taf à notre place. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi ou moi. C'est pas
dans la Haute-Ariège, 92.7. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Avec Laurent de l'Office de tourisme de Lourdes, on va prendre la direction des Halles de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
On va s'intéresser à l'histoire des Halles de Lourdes, et cette histoire, eh bien, elle commence à Toulouse.
Exactement. Donc nos halles lourdaises, en fait, effectivement, sont originaires de Toulouse. Donc, on va partir dans la ville rose pour démarrer un peu cette histoire. Effectivement, dans les années 1200, à Toulouse, existait un marché qui s'appelait en fait le marché de la pierre. Alors pourquoi le marché de la pierre? C'est que à l'époque on vendait beaucoup de grains parce que les gens faisaient leur pain eux-mêmes et donc pour faire ces mesures de grains, on utilise la pierre pour les tares et pour arriver à mesurer de façon juste et équitable le poids du grain. Ces halles ont vécu en fait pendant plusieurs siècles et donc ont connu un succès en fait assez important à Toulouse. Elles étaient fortement utiles, mais au fil du temps en fait le quotidien s'est un peu dégradé. Les halles devenaient en fait un peu insalubres, donc il a été décidé dans les années en fait fin 1800 de mettre une structure en fait construite en dur. Et donc à cette époque, les architectes se sont inspirés de ce qu'on trouvait à Paris, et en l'occurrence les halles de Paris. Et donc a été construit à Toulouse donc des halles, donc les halles de la pierre en fait sur un style baltard. Et donc ça a été flambant neuf. Mais l'expansion de Toulouse à l'époque faisait que ces halles se trouvaient dans le prolongement de la rue de Metz et gênaient le développement de la ville. Donc elles ont résisté à peu près une trentaine d'années fin 1800, il a fallu les démonter, voilà, parce qu'elles gênaient, et ça a permis d'ouvrir en fait sur une place qui est devenue la place Esquirol à Toulouse.
Ces halles de Lourdes ont donc été installées sur la place du Champ commun à Lourdes. Elles ont donc été achetées en 1892 et montées en 1895.
Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé effectivement, c'est que on avait à Lourdes la place du Champ commun, donc qui est une très ancienne place de marché pour la ville, hein, puisque de façon historique, on retrouve des éléments en fait qui datent des années de l'an 1000, où sur certaines cartes, on trouve en fait l'existence de cette place du Champ commun. C'était le lieu où tous les paysans des vallées venaient vendre leur bétail. Donc on avait tout le bétail des vallées, notamment du Lavedan, qui venait à Lourdes. Et cette place en fait avait des marchés hebdomadaires et des foires annuelles. Il y avait 3 foires par an, voilà. Et donc la volonté a été fin donc 1800 d'installer un bâtiment complémentaire, structuré, plus esthétique. Ça allait un peu dans le développement de la ville, hein, après les apparitions aussi et avec l'arrivée des premiers touristes aussi. Enfin bon, tout ça faisait qu'il fallait pérenniser l'architecture de la ville. Et donc ces halles qui avaient été achetées à Toulouse ont été remontées à Lourdes. Alors, pas exactement la même façon, hein. La structure reste la même, il a fallu l'adapter, fondre des piliers en métal en fait à Toulouse, les amener à Lourdes pour l'architecture. Il a fallu rajouter de la pierre de Lourdes, s'inspirer aussi de la couleur de Lourdes, donc c'est pour ça qu'ils ont cette couleur rouge. Voilà, donc ça a permis de remettre une structure en place qui était plutôt emblématique et magnifique.
Autre date importante pour les halles de Lourdes, c'est en 2008, puisque les halles sont structurées en 2 parties. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Exactement. Donc 2008, c'est le dernier virage, on va dire. Voilà, ils ont leur développement, leur essor. Et effectivement, en 2008, le bâtiment a été divisé en 2 parties. Donc avec la création d'un pôle culturel avec la médiathèque et la partie en fait halles, donc marché couvert de l'autre côté qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut aller visiter pour découvrir toute la gastronomie locale des Pyrénées.
Et la gastronomie locale des Pyrénées, on en parlera dans une prochaine chronique. Ça fera l'objet donc d'un autre sujet sur ces halles de Lourdes. Voilà, peut-être que la plupart des gens ne savaient pas que l'histoire des halles de Lourdes commence à Toulouse. C'est grâce à Laurent de l'Office de Tourisme que nous avons appris énormément de choses aujourd'hui. Un grand merci. On se retrouve pour une prochaine chronique, Laurent, pour parler donc du contenu de ces halles de Lourdes. Un grand merci et à très bientôt.
À bientôt, Gilles.
Balade en pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody was loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do.
Réécoutez le meilleur de notre
Radio Présence dans la Vallée d'Or 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La nouvelle présidence de la Conférence des évêques de France achève un pèlerinage de plusieurs jours en Terre Sainte, un voyage pour magnifier